France Inter.
Aujourd'hui, zoonose, les épidémies 5 ans après le Covid, raconté par...
Frédéric Keck, anthropologue au CNRS, directeur du master d'études environnementales à l'EHESS.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Je m'appelle Dr Will Lin et en janvier 2020, j'étais médecin urgentiste à Wuhan, en Chine. Je me souviens encore de cette journée où tout a changé, celle où nous avons reçu le premier patient qui allait marquer le début d'un cauchemar mondial. Il était tard dans la soirée, j'étais de garde depuis plus de 12 heures. Les urgences étaient calmes, mais un homme est arrivé très essoufflé. Il avait de la fièvre, une toux sévère et quelque chose dans ses yeux qui me disait qu'il était gravement malade. Nous pensions d'abord à une pneumonie classique, comme tant d'autres en hiver. Mais les scanners montraient une image inquiétante, ses poumons semblaient envahis par une ombre diffuse, comme si quelque chose d'invisible s'y était infiltré. Quelques jours plus tard, d'autres cas similaires ont commencé à affluer, tous présentaient les mêmes symptômes et tous semblaient liés à un endroit bien précis, le marché de Wan'an, un lieu où l'on vendait des poissons, mais aussi des animaux sauvages. Le lien avec une maladie transmise par des animaux devenait de plus en plus évident. Les échantillons de laboratoire ont révélé un virus que nous ne connaissions pas encore. Il appartenait à la famille des coronavirus, semblable à celui du SRAS de 2003, mais différent, plus insidieux. Les scientifiques ont émis l'hypothèse qu'il provenait d'une chauve-souris, peut-être après avoir transité par un pangolin. Ces créatures vendues sur le marché portaient en elles un ennemi que personne ne voyait venir. En quelques semaines, la situation a explosé. Les couloirs de l'hôpital se sont remplis de malades. Nous étions dépassés. Certains de mes collègues sont tombés malades eux-mêmes, emportés par le virus qu'ils tentaient de combattre. À mesure que les jours passaient, je voyais les lits se remplir, les regards désespérés de familles impuissantes et les masques qui cachaient les visages terrifiés de mes collègues. J'ai appris au fil des discussions avec les chercheurs comment les zoonoses naissent souvent des actions humaines, de la déforestation qui chasse les animaux sauvages de leurs habitats, des marchés qui rapprochent des espèces que la nature aurait séparées et de l'urbanisation galopante qui nous rapproche de ces réservoirs de virus. En janvier 2021, un an après le début de l'épidémie, alors que les vaccins commençaient à offrir un espoir, je me suis arrêté un instant pour réfléchir et je me suis demandé combien de temps avant que l'humanité ne soit confrontée à une nouvelle zoonose? Avions-nous appris quelque chose de cette tragédie? Je voulais y croire. Bonjour Frédéric Keck.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, vous qui publiez aux éditions de La Découverte « Politique des zoonoses, vivre avec les animaux au temps des virus pandémiques ». Qu'est-ce que c'est qu'une zoonose exactement ?
Alors, le concept de zoonose a été défini en 1856 par Rudolf Virchow, qui était le fondateur de la santé publique en Allemagne. Et donc, c'est une maladie transmissible entre espèces animales. Donc, on dit des animaux vers les humains, mais ça peut aussi aller des humains vers les animaux.
Ouais, donc, le terme apparaît à ce moment-là, en fait.
Voilà, alors il apparaît pour la trichinose, qui est un parasite qui se transmet par la consommation de viande de porc. Et qui déclenche une grande polémique sur l'importation de viande de porc séchée. Donc il va y avoir un embargo, donc c'est d'abord un risque alimentaire. Mais l'intervention de Rudolf Virchow, c'est de montrer en laboratoire que c'est le même parasite qui cause des symptômes chez les porcs et chez les humains.
Est-ce que ça crée un choc certain de réaliser précisément qu'une transmission est possible entre animaux et humains ?
Alors, au milieu du 19e siècle, ça ne suscite pas une grande réflexion, parce que c'est le moment, effectivement, où on ouvre la santé publique à ce qu'on appelle aujourd'hui la santé des animaux, des plantes, de l'environnement. Mais les zoonoses sont surtout traitées dans le cadre, justement, de risques alimentaires. Donc, les laboratoires servent à attester qu'on peut bien manger des animaux. Et en fait, on peut dire que la réflexion environnementale sur les zoonoses a plutôt commencé à partir des années 1970, avec la découverte d'Ebola, qui est un virus qui, lui, apparaît en Afrique centrale.
Quand vous dites réflexion environnementale, c'est-à-dire
C'est l'idée, en fait, que les zoonoses vont se multiplier du fait de l'impact de l'espèce humaine sur les autres espèces. C'est ce qu'on a appelé aussi l'anthropocène, l'impact des humains sur le changement de la planète au niveau global, qui est irréversible. Et donc, on a cette idée que les espèces animales se rapprochant par la déforestation, par l'élevage industriel, par le changement climatique de l'espèce humaine, eh bien, il va y avoir de nouveaux pathogènes qui vont passer aux humains pour lesquels les humains n'ont pas d'immunité. Et ça, c'est une grande prise de conscience après le succès de l'éradication de la variole, qui n'était pas une zoonose, puisque c'était une grande épidémie qu'on pouvait traiter par la vaccination. Il n'y avait pas de passage de la variole des animaux aux humains.
Est-ce que cet aspect environnemental, on l'a suffisamment mis en avant avec la Covid, par exemple ?
Alors, ça a été l'objet d'une réflexion au début de la Covid, quand on a su justement, c'est le passage que vous avez lu, que ce coronavirus venait des chauves-souris. On le savait déjà depuis la crise du SRAS en 2003, puisque le SARS-CoV-2 est une variation du SARS-CoV-1. Alors, il y a eu toute cette recherche sur comment un virus a pu passer des chauves-souris aux humains dans le sud de la Chine. Il y a eu cette hypothèse du pangolin, qui est plutôt une hypothèse proposée par les autorités chinoises. C'est un pangolin de Malaisie, donc il y a peu de probabilité. Mais il y a eu cette réflexion au début de la pandémie, notamment quand on a été confinés, que c'était les animaux qui nous rendaient malades et qui, d'une certaine façon, se vengeaient du mauvais traitement que nous leur imposions. Ouais.
Mais ensuite, on a un peu évacué cet aspect environnemental.
On l'a évacué parce que le problème de la vaccination est devenu central, le problème du port des masques et de leur disponibilité, et puis ensuite la question de savoir comment on va sortir de cette pandémie, est-ce qu'on va pouvoir retrouver une vie normale, et donc toutes les bonnes résolutions qu'on a prises au début de la pandémie pour changer notre rapport à l'environnement, même si effectivement nous en France, c'est pas notre rapport aux chauves-souris qui était en jeu, mais disons c'était au niveau global, notre dépendance par rapport à l'économie chinoise, la façon dont l'économie chinoise a transformé l'environnement en Asie en général, c'était tout ça qui était en réflexion au début du Covid.
Ouais. Est-ce que certains animaux sont des vecteurs plus particuliers de ces zoonoses ? Vous parlez donc de la chauve-souris. Est-ce que c'est vraiment l'animal numéro un dans...
Alors, les chauves-souris sont des bons réservoirs de pathogènes donc, qui franchissent les barrières d'espèces, parce qu'on dit que les chauves-souris, c'est un ordre qui contient un quart des espèces de mammifères. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre d'espèces de chauves-souris qui souvent vivent dans les mêmes environnements, des grottes ou des arbres, et qui donc peuvent échanger des virus en développant des systèmes immunitaires. Et donc, quand ces virus passent aux humains, ça cause... Donc, il y a eu, par exemple, le Hendra, le Nipah, en Australie ou en Malaisie.
Et ces animaux, les chauves-souris, ne sont pas elles-mêmes atteintes par les virus dont elles sont les porteuses ?
Non, parce qu'elles ont développé depuis très longtemps ces capacités à vivre avec les virus, justement, dans des colonies multispécifiques.
Est-ce que les zoonoses augmentent en ce moment ? Est-ce qu'il y a une tendance particulière ou pas ?
Alors, il y a des cartes qui ont été faites sur la multiplication des événements zoonotiques et qui est relié à la réduction de la biodiversité, c'est ce qu'on appelle les hotspots, c'est-à-dire des lieux, alors il y a effectivement l'Afrique centrale, un bout de l'Afrique de l'Ouest, l'Asie du Sud-Est, où une grosse réduction de la biodiversité peut être corrélée avec l'émergence de virus zoonotiques depuis une cinquantaine d'années. Maintenant, il y a effectivement certaines zoonoses qui vont rentrer dans l'actualité parce qu'elles causent des épidémies, des pandémies comme le Covid.
Alors vous parliez, pardon, je ne vous ai pas laissé prolonger sur la question des animaux vecteurs, donc la chauve-souris.
Alors,
mais
on
y en a
dit les chauves-souris, mais en fait, l'ordre animal dans lequel il y a le plus d'émergence zoonotique, c'est quand même les rongeurs. Alors, il y a le cas de la peste, qui est très connu depuis le début du 19e siècle, mais il y a par exemple Mpox. Le monkeypox, qui le nom a été mal choisi parce que ça a été étudié sur un singe de laboratoire en Europe, mais en fait ça vient des rongeurs d'Afrique centrale et c'est étudié depuis les années 70.
Et donc 2020 arrive le virus qui va changer la face de notre monde contemporain.
En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes, un chiffre beaucoup plus important selon des scientifiques. Une épidémie qui inquiète d'autant plus que le nouvel an chinois approche. Le virus pourrait se propager à l'étranger.
Les premières victimes auraient été contaminées sur ce marché aux poissons. Deux personnes sont mortes. Les malades présentent des symptômes de pneumonie. Malgré des mesures drastiques, les autorités chinoises se veulent rassurantes.
Frédéric Keck, évidemment, tout le monde se souvient de cet épisode, de cette longue séquence de Covid. Est-ce qu'on peut considérer que nous sommes passés à autre chose ou pas avec la Covid-19 ?
Alors, chaque épidémie ou pandémie donne lieu à un phénomène d'oubli. On l'a observé, par exemple, avec la grande pandémie de grippe dite espagnole de 1918.
Pourtant, il y a eu des millions de morts.
On est à 50 millions, selon certaines estimations. Alors, c'était lié avec la Première Guerre mondiale. Mais voilà, il y a ce phénomène d'oubli collectif. Et effectivement, quand on voit l'actualité qui a suivi la pandémie de Covid, la guerre en Ukraine, la guerre au Proche-Orient, effectivement, la Covid est sortie de nos préoccupations. Et puis, c'est vrai que les mesures prises dans la population humaine pour contrôler cette épidémie ont tellement divisé les sociétés avec les masques et les vaccins, qu'on préfère ne pas revenir aux origines du Covid, qui était pourtant un problème environnemental intéressant.
D'ailleurs, puisqu'on parle des origines du Covid, est-ce qu'on est réellement en 2020 ou en 2019, ou est-ce qu'il faut aller encore plus loin dans le temps ?
Alors, il y a eu des études qui ont montré que des échantillons contenaient des virus similaires au SARS-CoV-2 en remontant jusqu'au printemps 2019. Ce qui est certain, c'est que des virus circulaient chez des chauves-souris. On en a trouvé au Laos, par exemple, des chercheurs de l'Institut Pasteur. Donc, les virus zoonotiques, de toute façon, circulent chez les animaux, passent aux humains, et il est très difficile de savoir à quel moment s'effectue ce passage. Le point, effectivement, de départ d'une pandémie, c'est le moment où il y a un cluster, et donc ça, c'est le cas du fameux marché de Wuhan en décembre 2019.
Et d'autres images frappantes de certaines figures animales, comme par exemple le Danemark.
L'abattage a commencé ce matin au Danemark. 15 millions de visons d'élevage, soit la totalité, sont condamnés. On les soupçonne de transmettre le Covid-19 à l'homme. 12 cas suspects sont en train d'être étudiés. La Première ministre justifie cette décision.
L'infection a été constatée dans 207 élevages de visons et elle s'est développée malgré nos efforts. Le virus s'est étendu à l'homme. C'est très, très sérieux.
C'est une mesure de précaution parce qu'on a montré pour la première fois la transmission de la Covid-19 du vison à l'homme. Et donc, il faut se méfier beaucoup des visons.
France 3, novembre 2020, Frédéric Keck, à ce moment-là, avec ces abattages massifs de visons au Danemark, le public européen découvre d'ailleurs, par la même occasion, qu'on a un élevage industriel de visons.
Oui, l'élevage de visons au Danemark, en Scandinavie, a commencé à la fin du 19e siècle, quand le vison américain a été importé en Europe pour alimenter le marché aux fourrures. Et il a continué à prospérer à la fin du XXe siècle parce que les Chinois ont acheté massivement des fourrures aux Danois, qui sont les premiers exportateurs de visons. Et c'est vrai qu'en novembre 2020, on a découvert qu'il y avait 12 millions de visons au Danemark. Le gouvernement danois, alors après une première alerte aux Pays-Bas en juin, mais ça a été assez contrôlé, les élevages danois, donc par infection d'humains à visons, le gouvernement danois a décidé d'abattre les 12 millions de visons. Finalement, ils ont dû s'arrêter au bout de 3 millions parce que les images étaient trop spectaculaires. Et le gouvernement a annoncé qu'il renonçait à cette industrie.
Dont les cadavres, d'ailleurs à peine enterrés, ressortaient de terre. Alors ça, c'est vrai que vous le rappelez dans votre ouvrage, c'est hallucinant cette histoire.
Et ça a causé un scandale. La première ministre danoise, qui est en train de gérer l'affaire du Groenland, a été vraiment menacée de démission parce qu'elle avait mal géré.
Pourquoi ils ressortaient de terre alors?
Parce qu'ils ont été enterrés en quantité si massive que les fosses n'étaient pas suffisamment profondes.
Ouais. La Covid-19, c'est 7 millions de morts dans le monde, 777 millions de personnes concernées par ce virus. Quelle place, vous posez vous-même la question, dans un article récent du Monde, à cet événement dans notre histoire collective, selon vous ?
Oui, dans cet article du Monde, en fait, je propose trois récits de la Covid pour comprendre où on en est. Un récit qui commence avec 1976, Ebola, avec cette surveillance des mutations des virus. Donc ça, c'est une sorte d'accélération de la modernité. Il faut aller plus vite que les virus. Il y a un récit qui est celui de Jared Diamond, par exemple, depuis le Néolithique, où justement la domestication des animaux, le fait qu'on vive avec eux, fait qu'on a attrapé un certain nombre de leurs maladies, on s'est habitué à eux, puis en plus, on les a déplacés vers le Nouveau Monde. Ça, c'est un récit très très long, qui nous inciterait plutôt à être justement non moderne, à revenir à l'état de chasseur-cueilleur. Et puis moi, je choisis un récit moderne dans ce livre, effectivement, qui commence avec la révolution industrielle appliquée à l'élevage, et ensuite l'entrée de la Chine dans le capitalisme mondial avec cette explosion du nombre d'animaux élevés en Chine.
Donc c'est un récit géopolitique.
Voilà.
Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on va garder dans notre histoire collective en quelques mots rapides de ce Covid, selon vous ?
On va garder une réflexion sur la place de la Chine dans l'économie mondiale. La Chine s'est refermée à cause du Covid, et le débat sur les origines du Covid fait qu'elle ne veut plus tellement y rentrer dans le jeu géopolitique, en tout cas dans la transparence de l'information. Donc je crois qu'on va quand même garder cette réflexion sur notre dépendance économique à la Chine.
Une zone qui a beaucoup marqué les esprits, c'est la vache folle en Europe. On en parle dans un instant avec vous, et puis vous répondrez aux messages sur ces épidémies, voire pandémies, avec le mail de la Terre au Carré et nos réseaux sociaux.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
La vache folle, encore, mais cette fois, ce sont les scientifiques qui occupent le devant de la scène. Ce matin, deux chercheurs du commissariat à l'énergie atomique ont levé le voile sur une partie de leurs travaux. En clair, l'équipe en question a réussi à transmettre à des singes l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine, la fameuse maladie de la vache folle.
Nous avons trouvé des lésions qui sont très proches de celles qui ont été décrites chez les malades atteints de la nouvelle forme de maladie de Creutzfeldt-Jakob en Angleterre. Ces résultats apportent un premier argument scientifique en faveur de l'hypothèse d'un lien possible entre l'encéphalopathie bovine spongiforme et la nouvelle forme de maladie de Creutzfeldt-Jakob chez l'homme.
Nous sommes en 1996, c'est la voix à l'instant de la chercheuse Corinne Lasmezas du CEA, Frédéric Keck. Vous êtes notre invité autour de ce livre « Politique des zoonoses à la découverte ». Cette crise a beaucoup marqué les esprits, celle de la vache folle. Comment ça a démarré alors ? 96, on en est où alors ? C'est vraiment les prémices, les tout débuts ?
Oui, 96, c'est l'annonce par le gouvernement britannique qu'un certain nombre de cas de nouvelles variantes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob chez des patients humains sont liés à la consommation de viande bovine. Et on avait observé depuis quelques années déjà ces comportements erratiques des vaches. Et donc ça va donner lieu à l'embargo de la viande britannique en Europe et puis l'abattage des bovins dans un certain nombre de pays européens.
Ouais, les symptômes étaient donc connus depuis un petit moment déjà ?
Alors, les recherches sur le prion, qui est donc le pathogène, qui n'est pas un virus, qui est une protéine qui se convertit dans le cerveau à la consommation de viande, ces recherches, en fait, elles datent des années 70. Elles ont été faites en Papouasie-Nouvelle-Guinée par un chercheur qui s'appelle Carlton Gajdouzek, mais elles ont été appliquées plutôt dans les années 1980, donc la découverte du prion par Prusiner. Et donc, ça a permis de comprendre ce qui se passait avec la maladie de la vache folle, qui est en fait liée à la baisse de température de réchauffement des farines animales dans les élevages anglais.
Alors c'est ça, c'est vraiment ce qui explique cette transmission ?
Oui, parce qu'en fait, on peut considérer qu'il y avait une circulation du prion à bas bruit depuis le début du XXe siècle, où ces farines animales avaient été introduites. Le scrapie, qui était la tremblante du mouton, était connu depuis le XVIIIe siècle. Mais il y a eu sans doute un événement de transmission favorisé par des mesures de réduction des coûts de l'abattage.
Ah, c'est ça, c'est un objectif de rentabilité.
Quoi, voilà, c'est clair. Pour ça que la gestion de la vache folle était très orientée par la santé publique contre l'économie, dans un contexte néolibéral.
Quand on voit apparaître les premiers cas, Frédéric Keck, qu'est-ce qui se passe au niveau des scénarios là ? Qu'est-ce qu'on échafaude à ce moment-là ?
Les scénarios, effectivement, étaient catastrophiques. Oui, parce qu'en plus, la période d'incubation du prion était très longue, donc on pouvait imaginer des centaines de milliers de personnes en France infectées par... D'où la réduction de la consommation de viande observée en France et
c'est
en Angleterre.
Oui. Donc il y a eu un embargo, un principe de précaution avec embargo, ce qui a d'ailleurs conduit, je crois, le Royaume-Uni à attaquer la France devant la Cour de justice européenne. Et puis cet abattage massif demandé par le gouvernement britannique qui a permis quand même de circonscrire assez rapidement le phénomène ou pas ?
Oui, effectivement, on a constaté une réduction de la présence de prions donc dans les tests à l'abattage qui se sont donc systématisés. Ouais. Et aujourd'hui, on considère que c'est une maladie sous contrôle. Et les abattages qui ont eu lieu ensuite autour de la fièvre aphteuse, qui n'est pas une zoonose, ont été beaucoup plus larges. Donc c'est un problème de gestion purement économique au niveau de l'élevage anglais.
In fine, combien de morts alors autour de la vache folle ?
Je crois qu'en Angleterre, c'est à peu près 80 et en France, c'est 4.
C'est ça. Donc on a évité le pire, est-ce qu'on peut dire ça ?
Oui, ça c'est la justification du principe de précaution, c'est qu'on a maximisé le risque, on a pris des mesures très fortes et on a ainsi évité la transmission du prion aux humains.
Qu'est-ce que ça a changé aussi pour les consommateurs de réaliser que dans leur assiette pouvait se nicher un virus de cette nature ?
Alors, ça, c'est une hypothèse psychologique qu'on peut faire sur les zoonoses, c'est que ça produit une dissociation, ou plutôt ça met fin à la dissociation entre l'animal qu'on voit dans le pré et l'animal qu'on mange dans son assiette. Oui. Et dans le cas de la vache, qui est un animal vraiment emblématique en Europe, c'est l'animal qui signifie la bonne vie, en fait, dans la campagne. Cette dissociation était encore plus forte.
Donc, tout d'un coup, cet animal, il devient porteur de menaces. Hein.
Voilà, c'est ça. D'où l'expression « vache folle », voire vache cannibale.
Ouais, donc ça a touché aussi nos assiettes et ça a été un électrochoc
pour les consommateurs. Et puis aussi, ça a été un électrochoc pour le gouvernement français avec la mise en place de ce principe de précaution, qui lui-même venait de la gestion du nucléaire, mais qui, quand il était appliqué à l'élevage animal, causait effectivement ces dégâts, c'est-à-dire l'abattage et les conséquences psychologiques et morales pour les éleveurs.
Et concernant l'abattage et l'élevage, surtout industriel, est-ce que ça a remis certaines choses en question ou pas du tout ? Qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon au fond de ça ?
Alors effectivement, ça fait partie des réflexions que les éleveurs ont menées sur l'élevage industriel, l'intensification qui s'accompagne de nouvelles épizoties aussi, c'est-à-dire maladies transmissibles entre animaux, à différence des zoonoses qui se transmettent aux humains. Et donc ça a pu conduire certains à réduire le nombre de leurs élevages. Mais on a eu cette ferme aux 1000 vaches qui s'est implantée ensuite.
L'anthropologue Claude Lévi-Strauss, que vous avez connu, Frédéric Keck, a publié au cœur de cette crise un texte assez peu connu, qui s'appelle « La leçon de sagesse des vaches folles ». Qu'est-ce qu'il racontait, ce texte, sur cette crise sanitaire contemporaine ?
Alors c'est justement un texte où Claude Lévi-Strauss, donc qui écrivait dans un journal italien, c'était pas dans son habitude de commenter l'actualité, mais voilà, il avait pris sa retraite, et puis il suivait les recherches sur ce courroux de Nouvelle-Guinée depuis les années 70, donc il connaissait bien la maladie. Et puis il avait une réflexion sur notre rapport aux animaux depuis longtemps. Ouais.
Donc là, on est au début des années 2000.
Donc on est en 1996, au lendemain 96. De l'annonce du gouvernement anglais. Il dit, alors on dit que les vaches sont devenues cannibales. Est-ce que ça veut dire qu'elles ont été dénaturées, qu'elles sont devenues monstrueuses? Il dit, non, il faut prendre au sérieux la façon dont les sociétés dites cannibales, c'est-à-dire les sociétés d'Amérique du Sud qu'il connaît bien, les Tupi-Kawaib, ont justement traité les animaux comme des ennemis quand ils les chassent, en intégrant certains par des rituels, en se méfiant justement des maladies qui peuvent leur transmettre. Et donc il fait cette proposition assez utopique, d'après ses propres termes, de dire, pour résoudre le problème de l'élevage industriel, on pourrait relâcher nos animaux, ils reviendraient à l'été sauvage, et on en garderait certains qui deviendraient cannibales, qui seraient intégrés dans la communauté humaine, et qui serviraient à la surveillance du reste du troupeau.
Ouais, et alors c'était pas un appel au végétarisme alors ?
Alors c'était pas un appel au végétarisme, parce qu'il continuer à promouvoir la chasse.
Ouais.
Mais avec cette idée que pour chasser des animaux sauvages, il faut quand même que certains restent, alors sinon domestiques, au moins sentinelles, c'est le terme que j'utilise, qu'ils n'utilisent pas. C'est-à-dire qu'ils sont des intermédiaires entre le sauvage et l'humain pour surveiller les animaux sauvages.
Ouais. Ce qui fait que l'homme occidental peut lui être aussi, dans la pensée de Claude Lévi-Strauss, qualifié de cannibale. Alors c'est ça aussi que ça veut dire ?
Alors ça veut dire plutôt que on doit apprendre des sociétés cannibales, c'est-à-dire des sociétés d'Amérique du Sud, celles que Philippe de Scala appelle aujourd'hui animistes, sur les bonnes façons de nous comporter avec des animaux sauvages, c'est-à-dire des animaux qui vivent avec nous dans la forêt.
Ouais. Donc c'est-à-dire que les épidémies naissent aussi de notre cannibalisme ou...
Les épidémies naissent plutôt de la façon dont on a intégré les animaux dans notre espace domestique, en les concentrant. Les sociétés sauvages ont toujours su, sauvages au sens qu'ils vivent dans la forêt, ont toujours su qu'il était dangereux de consommer des animaux, mais elles avaient un certain nombre de rituels, et nous le seul rituel qu'on a réussi à trouver finalement, c'est de tester des vaches sur la chaîne à l'abattage.
La leçon de sagesse des vaches folles, donc texte de Claude Lévi-Strauss. Frédéric Keck, vous êtes notre invité, on se retrouve dans un instant, et puis vous répondrez au message à toutes les questions sur ces épidémies et pandémies. On verra justement comment on peut se préparer à la prochaine, voire aux prochaines, parce que immanquablement nous devrons y faire face, en tout cas dans les années qui viennent.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Ebola menace désormais Bandaka, une ville d'1,5 million d'habitants. C'est ici qu'on trouve les premiers centres médicaux où sont soignées les personnes atteintes du virus. Un virus très dangereux qui se transmet par un simple toucher. Les premiers symptômes sont des maux de tête, puis des vomissements. La mort peut intervenir très vite. Sur les étals du marché central de Bandaka, les habitudes alimentaires n'ont pas changé. La viande de singe, soupçonnée pendant un temps de transmettre le virus, se vend toujours aussi bien.
Nous ne savons pas vraiment d'où vient Ebola. Nous vendons de la viande de singe tous les jours et les gens en achètent autant qu'avant.
Reportage de France 3 en 2018 autour du virus Ebola. Frédéric Keck, dans votre livre Politique des zoonoses aux éditions de la Découverte, vous évoquez ce virus, puisque vous le disiez tout à l'heure, il a été dans les années 70 l'un des premiers d'un grand cycle de zoonoses.
Oui, Ebola marque ce qu'on appelle le début du paradigme des maladies infectieuses émergentes, c'est-à-dire l'idée qu'après la vaccination de la variole, de nouvelles maladies infectieuses vont arriver. Et donc le cas de ce virus, donc découvert sur Le fleuve Zaïre, donc un village qui s'appelait Ebola, en fait.
Ouais.
Donc c'était un virus qui tuait 95% des personnes infectées.
Très létal. Ouais.
Voilà. Alors, il tuait tellement vite que les gens n'avaient pas le temps de se déplacer. Donc il n'a jamais franchi, il n'est jamais sorti du continent européen, africain. Pardon.
Ouais.
Mais effectivement, ça a été celui qui a hanté, y compris les romans de science-fiction, hein, sur les zoonoses.
Ouais, mais il existe toujours. Il est toujours,
il existe
là,
toujours. Alors,
Ebola.
Hein. Le point très inquiétant, c'est qu'effectivement, après avoir circulé depuis les années 70, en Afrique centrale, il est passé en Afrique de l'Ouest, hein, dans les années 2015.
Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a toujours ce danger potentiel, parce que fait, pour ouais. l'instant, à chaque fois, il y avait des poches qui ont fait quand même beaucoup de victimes. Hein. Mmh. Mais imaginons un virus Ebola qui se répandrait comme le virus du Covid. Mmh. Là, ce serait une autre affaire quand même. Hein.
Oui, 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 tout à fait. Et puis alors, c'est un virus qui ne se transmet pas de façon respiratoire, hein, comme le Covid ou la grippe. Mm-hmm. Donc il faut qu'il y ait contact avec des substances. C'est pour ça qu'en Afrique, il y a eu beaucoup de travail fait autour des pratiques d'enterrement, où là, il y avait ouais. Des transmissions.
Selon les experts internationaux, aujourd'hui, Frédéric Keck, les pandémies, le réchauffement climatique figurent parmi les plus grandes menaces. Donc pandémie et réchauffement climatique auxquelles l'humanité va être exposée dans le mi-siècle à venir. Est-ce que le monde est mieux préparé alors que toute l'histoire de l'humanité a été rythmée par des pandémies d'envergure ? C'est-à-dire que ça ne date pas d'il y a 50 ans. Hein.
Alors l'idée qu'on peut se préparer à la prochaine pandémie, en fait, elle émerge au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On peut même dire que quand les États-Unis rentrent dans la Seconde Guerre mondiale, comme ils ont été très affectés par la première pandémie de grippe en 1918, ils intensifient les recherches sur la grippe qui étaient menées par les Anglais depuis 1930. Donc, c'est des techniques que met en place le gouvernement fédéral américain qui consiste à simuler l'arrivée de la grippe dans une ville américaine, stocker des masques et des vaccins. Et donc, l'idée qu'on peut se préparer à la prochaine pandémie de grippe va déterminer, par exemple, la gestion de la grippe aviaire en 1997 à Hong Kong. Donc, on pourrait dire que depuis 1945, quand même...
On a tiré toutes les leçons.
On devrait être bien préparé. Mmh. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'arrivée de la grippe aviaire en Chine a crédibilisé le scénario d'une prochaine pandémie, du fait des transformations environnementales de la Chine. Les chercheurs chinois, d'ailleurs, se sont beaucoup investis eux-mêmes hein, dans la recherche sur cette transmission donc, des oiseaux aux porcs aux humains. Ensuite, il y a eu la pandémie de H1N1, qui était une grippe porcine et pas aviaire, donc moins dangereuse, moins létale. Et là, on peut dire que l'Organisation mondiale de la santé a connu un échec, parce que toutes les mesures prises contre le H5N1 depuis 1997 étaient inefficaces contre le H1N1 de 2009. Et puis ensuite, le Covid qui ne se passe pas comme le SARS-CoV-1 de 2003. Alors, tout ça vient du fait que les virus mutent et que c'est très difficile d'adapter un plan de préparation.
Donc, ils nous surprennent à chaque fois, finalement.
Voilà, ils nous surprennent à chaque fois.
Donc, ça veut dire qu'on n'est pas bien préparé ou pas ?
On est aussi bien préparé qu'on peut l'être avec nos moyens humains, c'est-à-dire ceux de gouvernements qui font des plans. Et c'est pour ça que pour être bien préparé, alors c'est l'hypothèse que je propose en suivant les leçons de Claude Lévi-Strauss, c'est qu'il faudrait aussi que les individus s'approprient ce raisonnement écologique.
Quand vous dites les individus, c'est la population ?
La population, alors c'est-à-dire vraiment chaque sujet, tant qu'il est en rapport avec la planète qu'il transforme par son action collective, puisse réfléchir sur qu'est-ce que je vais faire au cas où il y a une pandémie et comment mes comportements pourraient éviter l'émergence de pandémie. Donc c'est les comportements alimentaires, c'est les comportements de locomotion, de consommation de toutes sortes de produits qui effectivement contribuent à ces chaînes de transmission.
Ouais, sauf que vous le disiez tout à l'heure, la mémoire, on a tendance à vite oublier aussi ces épisodes ou à vouloir vite les oublier.
Et en même temps, les pandémies apparaissent quand même comme des alertes. C'est-à-dire qu'on voit bien, par exemple, le réchauffement climatique, c'est une catastrophe lente.
Oui.
Mais pour laquelle il est difficile de modifier ses comportements, alors que au début de la pandémie de Covid, même si c'était pas lié avec le réchauffement climatique, Bruno Latour a écrit un beau texte là-dessus. Est-ce qu'on peut inventer des gestes barrières contre le Covid, contre le réchauffement climatique, analogue à ceux qu'on prend contre le Covid ?
Quels sont les virus qui suscitent tout particulièrement l'attention en ce moment, Frédéric Keck ?
Alors, on peut dire que le H5N1 qui est en train de se diffuser en Californie dans les élevages de bovins. Notamment dans le contexte où Donald Trump a mis comme ministre de la Santé quelqu'un qui soutient l'élevage industriel et qui est contre les vaccins, on peut dire que ça suscite beaucoup d'inquiétude des experts au niveau international.
Donc grippe aviaire.
Alors grippe aviaire, donc avec possible transmission aux humains. On a...
Il y a un cas d'ailleurs aux États-Unis.
Voilà, hein. En plus c'est des travailleurs migrants, donc qui ont des conditions de santé...
C'était en janvier dernier, il y avait un cas.
Difficile. On a aussi un virus H5N1 qui circule en Europe chez les oiseaux sauvages, qui affecte beaucoup les oiseaux sauvages d'ailleurs, hein, aussi bien d'ailleurs en Europe qu'en Amérique. Ça, c'est quand même la grande nouvelle depuis 2022, c'est que le H5N1 diffusait de l'Asie vers l'Europe et l'Afrique, mais pas en Amérique. Donc, il y a vraiment cette alerte sur le virus H5N1, à la fois pour les oiseaux et pour les humains.
Et la grippe porcine ?
Alors, la grippe porcine, elle est sous contrôle, en quelque sorte, parce que les élevages porcins sont extrêmement sécurisés. Du fait que c'est un virus qui se transmet plus facilement aux humains, parce que les porcs ont un organisme plus proche d'une autre, elle est aussi sous... Et alors, il y a la grosse alerte aussi sur la peste porcine africaine, qui n'est pas une zoonose. Mais donc, effectivement, l'élevage porcin et l'élevage aviaire, qui sont les deux élevages les plus industrialisés, sont quand même les plus surveillés.
Allez, on passe aux questions. Question de nos auditorices. Christophe nous écrit ceci. Qu'en est-il de l'hypothèse d'un virus sorti d'un laboratoire chinois pour parler du SARS-CoV?
Alors, c'est une des hypothèses qui ont été testées par l'Organisation mondiale de la santé dès 2021. Donc, il y a eu donc une enquête de l'OMS à Wuhan. Il y avait 4 scénarios qui étaient évalués. Donc, une transmission directe de chauve-souris à humain, une transmission sur le marché de Wuhan. Alors, il y avait la transmission dans des marchés du nord de la Chine par des produits congelés importés des États-Unis. Ça, c'est plutôt des experts chinois qui ont mis en avant cette hypothèse. Ça les arrangeait bien. Et puis, l'hypothèse, effectivement, de sortie du laboratoire.
Elle vous paraît solide, cette hypothèse, ou pas?
Alors, il y a un certain nombre de faits qui vont dans le sens de cette hypothèse, à la fois des faits liés à la structure même du SARS-CoV-2, sa contagiosité, et aussi la transmission du virus dans la ville de Wuhan, le fait qu'il y avait plusieurs laboratoires qui étaient assez proches du marché de Wuhan. Ouais. Maintenant, il y a aussi des chercheurs du CNRS qui ont montré que dans le marché de Wuhan, on trouvait à la fois des chiens vivérins qui sont assez capables de transmettre le...
C'est quoi un chien vivérin ?
Alors, un chien vivérin, c'est un animal qu'on consomme à la fois pour sa fourrure et pour sa viande dans la médecine traditionnelle chinoise et qui était déjà là au moment du SARS-CoV-1 en 2003. Donc ça peut être un candidat beaucoup plus que le pangolin. Donc, en tout cas, on n'aura sans doute pas la réponse avant beaucoup de temps. Les deux hypothèses qui restent sur la table, c'est effectivement le marché ou le laboratoire comme passage intermédiaire.
Julie demande, y a-t-il eu des cas de vaches folles ailleurs qu'en Angleterre ? Ben, en France ?
Alors, en France, il y en a eu un en Italie, à ma connaissance. Oui. Bon, la grande énigme, c'est de savoir pourquoi les États-Unis n'ont pas rapporté des cas de vaches folles. Il y a même eu un moment en Corée des manifestations contre la viande de vache importée des États-Unis, qui était soupçonnée de transmettre la vache folle. La surveillance a été diminuée parce que sur le continent européen, ça a été contrôlé.
Éric nous écrit « Bonjour, en tant que référente des maladies zoonotiques et émergentes pour la profession vétérinaire en France, je voudrais vous alerter sur le manque de moyens mis pour identifier une émergence en santé animale. Nous ne devons pas attendre que la maladie soit identifiée chez l'homme pour lutter contre elle. On a des moyens, mais les pouvoirs publics n'y sont que très peu sensibles. »
Oui, tout à fait. Ça fait référence à la distinction très importante entre surveillance passive et surveillance active. La surveillance passive, on reçoit les cas. La surveillance active, on va les chercher. Et ça, c'est une idée très centrale dans tous ces dispositifs que j'ai étudiés. C'est d'aller plus vite que la nature elle-même. La nature cause des mutations de pathogènes en permanence et donc il faut pouvoir les anticiper.
Qu'en est-il pour terminer de la maladie de Lyme, demande Corinne. Est-elle considérée comme une zoonose ?
Non, on dit que c'est plutôt une maladie à vecteur parce qu'elle est transmise par les puces, mais c'est vrai qu'elle est liée au changement de comportement des humains, ce qu'on appelle les néo-héros, quand ils sont en contact avec des animaux, des forêts, notamment des cerfs.
Et puis enfin, allez, on a encore le temps pour un message de Anne. J'aimerais connaître l'avis de votre invité au sujet du phénomène de Covid long, c'est-à-dire le fait que le virus reste en hôte chez certaines personnes pendant plusieurs années et selon des modalités variables. Quelle issue peut-on envisager ?
Alors, c'est un phénomène compliqué et je vais répondre en faisant un parallèle avec la maladie de Lyme que vous venez d'évoquer. C'est que les patients de la maladie de Lyme ont fait tout un travail justement pour faire valider par les autorités de santé ce phénomène plurifactoriel avec plein de symptômes, notamment neurologiques. Et ils transfèrent ça maintenant autour du Covid long qui a longtemps été dénié par les autorités de santé.
Merci beaucoup Frédéric Keck. Un mot sur une exposition à voir en ce moment au musée des Confluences à Lyon. Ça s'appelle « Épidémie, prendre soin du vivant ».
Dont j'ai été conseiller scientifique et que je recommande parce qu'elle finit en février.
Et pas seulement parce que vous avez été conseiller scientifique, mais prendre soin du vivant dans le contexte des épidémies, c'est évidemment une idée intéressante à creuser.
Et ça commence par une très belle série d'animaux taxidermisés et de virus en verre.
Très Très bien, donc c'est à Lyon en ce moment, au musée des Confluences. Et puis je renvoie aussi sur votre livre « Politique des zoonoses ». C'est aux éditions de La Découverte. Ce dossier aujourd'hui a été préparé par Joël Levert. Frédéric Heck, merci beaucoup d'être venu au micro de La Terre au Carré.
Merci à vous.